car ils vont venir du pays ennemi. Il est un espoir pour ta descendance. Ils vont revenir, tes fils, sur leur terre. J'entends le gémissement d'Éphraïm. Tu m'as corrigé, j'ai subi la correction, comme un jeune taureau non dressé. Fais-moi revenir, que je revienne. Hashiveni, Hashuva. Fais-moi revenir, que je revienne. Convertis-moi, que je me convertisse. C'est pas par des efforts extérieurs, par des tensions, que je vais arriver à pardonner. C'est en me lançant remplir du pardon du Seigneur. Et qui va déborder en moi sur ceux à qui j'ai à pardonner. Fais-moi revenir, que je revienne, car tu es le Seigneur, mon Dieu. Après m'être détourné, je me suis repenti. Après m'être détourné, je me suis retourné. Il joue sur les mots. J'ai compris. Je me suis frappé la poitrine. J'étais plein de honte et de confusion. Oui, je portais sur moi l'opprobre de ma jeunesse. Et puis vous avez... comme une cadence dans une symphonie, le violon ou le piano qui part tout seul. C'est la voix de Dieu. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils si cher? Un enfant réellement préféré? Pour que, après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui. Et que mes entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse. Oracle du Seigneur. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Nous avons entendu un homme qui pleurait et se lamentait, qui laissait sortir sa colère intérieure. Et voilà qu'il se trouve tout d'un coup touché par cette grâce absolument gratuite de Dieu. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Éphraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement préféré, pour que, après chacune de mes menaces, je doive toujours penser à lui. Ce sont des parents, hein. Dieu est un père. Il y a des entrailles maternelles et des gestes de maman. Que mes entrailles s'émeuvent pour lui, mes entrailles, et que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Mais il faut vraiment lire ces passages comme une symphonie. Vous avez tout ce passage dur, tous ces oracles dans lesquels il y avait de temps en temps des éclats. Et maintenant, c'est vraiment c'est quelques chapitres, donc 30 et 31 surtout. 30 et 31 sont vraiment l'essentiel de la musique qui s'apaise et qui monte très fort. Je suis au verset 21. Dresse des jalons, mets en place des bornes, marque bien la route, la voie où tu as marché. Donc, essaye de revivre à partir de ce que tu as vécu. Et que ce soit maintenant ta joie. Que ce que tu as vécu devienne vraiment la joie qui te porte. Non pas que tu portes, mais qui te porte. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens en ces villes qui sont tiennes. Jusqu'à quand tourneras-tu de ci, de là, fille rebelle? Car le Seigneur crée du nouveau sur la terre. Et alors, il y a ce verset énigmatique sur lequel on a écrit énormément, un peu dans tous les sens. La femme, bon, c'est comme ça que c'est traduit ici, la femme recherche son mari.
Qu'est-ce qu'il y a d'énigmatique à ça?
Ben oui.
C'est que la traduction n'est pas, ne colle pas à l'hébreu.
Dans l'acte, on dit la femme fait la cour.
La femme fait la cour. Autre version. Ah, ceci se rapproche déjà de l'hébreu. Je vous lis parce qu'elle est bien. Je vous lis, pardon ? 22, verset 22. Je vous lis parce que la note est bien faite. Le texte où le verbe hébreu signifie entourer. Ou tourner autour, ou rechercher, sa vive, c'est l'idée d'entourer, exprime la reprise des relations d'amour entre Israël et son époux le Seigneur. Et il reprend évidemment les passages d'Osée et d'Isaïe 54 ou d'Ézéchiel 16. La Vulgate en a accentué la portée messianique par la traduction, la femme entourera l'homme. Et alors, Saint Jérôme explique cela, la femme étant à la fois l'humanité qui porte Jésus, l'homme avec un grand H, Marie qui porte l'enfant Jésus.
C'est 31 verset 22 pour ceux qui trouvent pas.
Ah oui. Et donc, qui évoque la conception virginale du Christ. Vous voyez comment, hein, une thématique, c'est vrai que c'est que l'idée générale, c'est entourer, hein, être présent autour, envelopper en quelque sorte. Et c'est plutôt entourer et qui symbolise aussi la recherche. On tournait autour. Alors, je crois que l'idée fondamentale, c'est cela. Le Seigneur crée du nouveau sur la terre, c'est que la femme, c'est-à-dire Israël, se tourne vers lui. Elle reprend contact avec le Seigneur. Mais c'est la femme. Et c'est un terme qui est important parce qu'il revient toujours chez Saint Jean, dans l'évangile de Jean, où toute femme est appelée femme, avec un grand F. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. On dira encore cette parole au pays de Juda et dans ses villes quand j'aurai changé leur sort. Et c'est un slogan, hein, ou un adage que l'on reprend. Que le Seigneur te bénisse, toi pâturage de justice, toi sainte montagne. C'est une bénédiction que l'on fait sur Jérusalem. Que le Seigneur te bénisse, toi pâturage de justice, avec cette idée de justice tzedek, qui a le nom de Cédécias, et le nom de la ville sainte, cité de la justice tout de suite. Toi, sainte montagne, la montagne du temple. Oui, Paul ?
Je pensais le verset précédent, 21, que désigne exactement Vierge d'Israël.
Oui. C'est Vierge d'Israël, c'est Israël qui est considéré comme une vierge. Tout pays, toute communauté, toute ville est toujours dans la Bible comparée à la femme, à une femme. Et cette femme, c'est ou bien elle est vierge, ou bien elle est veuve, ou bien elle est répudiée, ou bien elle est fiancée. C'est les rapports entre Dieu et Israël sont comparés à partir d'Osée au rapport, hein, d'un homme avec sa femme dans tous les états qu'elle peut vivre. Et Osée, justement, hein, nous voyons qu'il vit d'abord avec une prostituée et il découvre là, dans cette vie avec cette prostituée, il découvre que Dieu peut accueillir même celle qui se prostitue. Mais pourquoi une femme symbolise-t-elle? Bon, elle symbolise deux choses, surtout dans la Bible. Elle symbolise d'abord la ville, la communauté, parce que comme les femmes avaient de nombreux enfants, dès qu'on parle de communauté, on parle de famille. Et donc, on la résume en disant, c'est la maman avec tous ses enfants. Une société est représentée comme ça par une femme et ses enfants. Mais une femme qui a perdu son mari et ses enfants, qui est veuve, c'est une autre situation. Mais pour le Seigneur, même si on est veuf, si on a tout perdu, tout ce à quoi on mettait son amour, on est aimé totalement par le Seigneur, quelle que soit la situation. Parce que c'est nous qu'il aime, c'est la personne qu'il aime. Donc ça, c'est une des personnifications que vous retrouvez dans la Bible. Donc on compare toujours fille de Sion. Ça veut dire la fille Sion qui est comparée à une fille. Vierge d'Israël, c'est Israël qui est comparé à une jeune fille qui est ouverte à son époux. Ekra, Yajva, Vadad, Hashir, Rabatia. Le début des lamentations. C'est la veuve qui se trouve là, esselée, près des ruines de Jérusalem. Vous voyez ? Donc, les différentes situations d'Israël sont comparées aux diverses situations dans lesquelles se trouve une femme, à cause de cela. Deuxième symbolisation que vous trouvez dans la Bible, c'est la sagesse. La sagesse est toujours aussi comparée à une femme. Et dans les diverses situations aussi, dans les diverses attitudes. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est, disons, attention, ou bien le dessein, nous dirions la providence de Dieu pour l'humanité entière, symbolisée aussi par Israël, mais pour l'humanité entière. C'est le dessein d'amour de Dieu à travers l'histoire. Ce dessein d'amour qui se trouve en Dieu en plénitude et qu'il donne. Comme un père donne sa fille à son mari, qu'il donne à l'humanité. Il permet à chacun ou à chacune de découvrir quelque chose de cette sagesse de Dieu. C'est une sorte de perception de Dieu comme celui qui accompagne l'homme. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, c'est la manière dont Dieu accompagne l'humanité, et donc chacun. Et à côté de cette femme sagesse, vous avez la femme folie. C'est la manière dont ce dessein est accueilli par l'homme, sagesse, ou dont il n'est pas accueilli, où l'homme tourne autour de lui-même, folie. Et donc, toute cette symbolique est constamment présente, mais plus chez les uns que chez les autres. Et certains auteurs, les livres de sagesse notamment, prenez le livre de Proverbe chapitre 8, ou bien Ben Sirach 24, ou bien le livre de la sagesse chapitre 9, la belle prière de la sagesse. Au fond, Israël veut en manifestant cette présence de Dieu comme le Père et comme une présence féminine qui va être prise dans le Nouveau Testament comme l'Esprit Saint, l'Esprit est féminin en hébreu, c'est une manière pour le Juif de parler de l'amour de Dieu avec Israël sans que ce ne soit un couple. Dans les mythologies, c'est toujours un couple. Dieu et déesse. Et Israël n'a jamais accepté cela, mais il met quand même en Dieu cette présence féminine. Et vous le voyez bien ici, c'est un père, mais qui a des entrailles maternelles. Mais on voit bien que Israël a voulu se démarquer de la mythologie classique, gréco-romaine, mais avant cela, de la mythologie mésopotamienne ou de la mythologie perse, un peu différente quand même, il a voulu se démarquer en gardant l'unicité de Dieu sans qu'il ait de paraître, hein, c'est-à-dire de femme à côté de lui. Et donc, la femme symbolise toujours d'une façon ou d'une autre cette humanité ouverte à la présence divine. Dans ce pays s'installeront Judas et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui vont avec un troupeau, donc les nomades et les sédentaires. Car je donnerai l'abondance à l'âme épuisée et la profusion à toute âme qui languit. Donc il sera celui qui redonne la vie. C'est pourquoi, et ici c'est un nouveau slogan qui est une prière, dès mon réveil j'étais dans l'abondance et mon sommeil était tranquille. En paix, je me couche, aussitôt je m'endors, toi seul Seigneur, m'établis en assurance. Traduit parfois par sécurité, mais sécurité c'est autre chose.
C'est quel psaume ?
Quoi ?
C'est quel psaume ?
Le psaume 5. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je sèmerai sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda une semence d'hommes et une semence de bétail. C'est-à-dire la fécondité, semence. Hein. Et de même que j'ai veillé sur eux pour arracher, pour renverser, pour démolir, pour exterminer et pour affliger, de même je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, oracle du Seigneur. Hein, c'est la reprise de la vocation de Jérémie. C'est pour vous dire, Dieu a de la suite dans les idées.
Ah, c'est
Kohélète, hein, il y a un temps pour tout. Mais si ce n'est pas un temps pour, hein, mais c'est vrai que c'est la même inspiration que Kohélète, c'est le Seigneur hein, qui transforme la réalité, qui fait l'un et l'autre. On voit bien ici, on a de nouveau hein, mis à côté de cette cadence dont je vous parlais tout à l'heure, de ce morceau de bravoure, hein, de Dieu qui se fait proche de son peuple, on a mis un certain nombre d'oracles, dont le plus important va être mis ici à la fin. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées. » C'est aussi un slogan que vous trouvez dans Ézéchiel. Hein. On paye en quelque sorte les erreurs de son parent. C'est l'hérédité. Hein. Mais chacun mourra pour son propre crime. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. C'est-à-dire, on deviendra vraiment des gens responsables. Pas des gens qui subissent leur destinée. Mais qu'il accueille et qu'il prenne la responsabilité de leur être, c'est-à-dire des gens libres finalement. Donc, ce sont des ouvertures vers ce que Dieu promet à chacun, c'est-à-dire ce qu'il désire pour nous. On dit parfois rétribution personnelle. Oui, il y a cela, mais ça va plus loin que cela. Et puis nous avons ce texte qui est cité et recité dans le Nouveau Testament. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Quand Jérémie parle de la maison d'Israël, il ne parle pas seulement du Nord, mais il parle de tout Israël. Mais quand on a relu ce texte après l'exil, hein, on a voulu ajouter et avec la maison de Juda, pour dire c'est vraiment tout Israël, parce qu'on pourrait prendre Israël dans le sens partitif uniquement du Nord. Une alliance nouvelle. C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où l'on parle d'alliance nouvelle. On parle d'alliance éternelle, très souvent. Enfin, très souvent, du moins, de façon assez continue. Mais d'alliance nouvelle, non. Et il faut bien se dire que l'alliance nouvelle prend cours dans l'Ancien Testament. On oppose souvent alliance nouvelle à alliance ancienne. L'alliance nouvelle prend cours dans l'Ancien Testament. Et elle prend cours, comme c'est dit dans le contexte, au moment où Dieu ramène Israël sur sa terre. L'alliance nouvelle, c'est le retour d'Israël sur sa terre, qui va être accompli en Jésus. Accompli, c'est-à-dire elle va trouver sa forme définitive en Jésus. Mais elle prend cours dès l'Ancien Testament. Donc il ne faut pas les opposer. Pas plus qu'il ne faut opposer le Dieu d'Ancien Testament qui serait un Dieu de colère et de châtiment au Dieu du Nouveau Testament qui serait un Dieu d'amour. Jérémie est l'un de ceux qui nous montre bien que cette tendresse de Dieu pour Israël et pour l'humanité entière à travers Israël est vraiment présente dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas attendre le Nouveau. Mais de nouveau, ce que nous avons avec Jésus, c'est l'efflorescence de cet amour. Et cette efflorescence, qui n'est pas seulement la promesse à un peuple en général, mais dans une personne. Et alors que tout était regardé en termes de peuple dans l'Ancien Testament, en bloc d'abord la collectivité avant la personne, à partir de Jésus, c'est l'inverse. C'est la personne qui est d'abord regardée. Et parce que chacune des personnes, la collectivité. Mais le mouvement est inverse. Et donc, il faut être un peu plus précis que de dire Ancien Testament colère, Nouveau Testament amour. Mais ce sont déjà deux choses que le juif, tout bon juif qui connaît bien son hébreu, vous dira, quand le texte de la Bible utilise le terme de Dieu, Elohim, c'est toujours vu selon son attribut de rigueur, comme ils disent. Son attribut de grandeur, d'inaccessibilité, Dieu qui nous dépasse, et donc qui juge. Tandis que quand vous avez ce que je traduis toujours par le Seigneur, et que la plupart des Bibles expriment en disant Yahvé, qui ne veut pas dire grand-chose, le mot Yahvé vient probablement de ce terme Yahou, ô lui. C'est ne pas vouloir le nommer, mais simplement, il est une expérience, et une expérience intime, ô lui. Yah s'utilise encore en arabe, qui est un ô. Seigneur, hein, monsieur, Yassidi. Yah. Et c'est probablement cela. Et le juif n'exprime jamais cela, il dit souvent l'éternel. Mais quand vous voyez le nom, le tétragramme, c'est-à-dire le Y-E-Vav-E, ça signifie Dieu selon son attribut de tendresse, de miséricorde. Ce sont les deux faces que prend l'unicité de Dieu pour un homme qui est double, qui a une droite et une gauche. C'est-à-dire qui est à la fois rectitude ou manque de rectitude et amour ou manque d'amour. Dieu qui est un devient en quelque sorte double pour l'homme. C'est pas Dieu qui le devient, c'est l'homme qui le voit comme cela. Comme un enfant, quand on lui parle de son père, il peut dire, oh il est sévère. Il t'aime aussi, oui il m'aime aussi. Mais il a d'abord vu son caractère de sévère. ton papa, comment il est pour toi? Ah, il m'aime bien. De temps en temps, il est un peu sévère. Ah oui, de temps en temps, il est un peu sévère. Voilà. Ce sont ses sentiments. C'est la manière dont nous voyons celui qui nous aime, avec les limites de son amour et les nôtres. Une alliance nouvelle. En quoi cette alliance est-elle plus nouvelle que les autres alliances, qui sont toujours nouvelles en quelque sorte? Il y a l'alliance avec Abraham, il y a l'alliance avec Moïse, il y a l'alliance avec David. Hein? Et c'est au fond toujours la même. Ce sont des renouvellements d'alliance, comme nous le disons. Ici, c'est Brit Hadasha, une alliance nouvelle. Eh bien, on va vous la décrire. En quoi consiste cette alliance nouvelle? Cette expérience tout à fait neuve de l'alliance qu'Israël a eue lorsqu'il est retourné dans sa terre. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc il renvoie à l'alliance du Sinaï. Cette alliance, mon alliance, c'est pas eux qui en ont eu l'initiative, c'est moi-même. Cette alliance, mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. De mon côté, je ne l'ai pas rompue, mais eux, oui. Alors moi, je leur fis sentir ma maîtrise. Je leur ai dit, mais votre alliance, c'est sérieux quand même, hein? C'est sérieux que je me suis donné à vous. Je leur fis sentir ma maîtrise. Oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Donc ça tape après le retour. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Le signe concret de l'alliance, c'était la Torah du Sinaï. La loi, ce que nous appelons la loi. La loi, ce n'est pas une prescription, une exigence extérieure à l'homme. Nous traduisons, faute de mieux, nous avons traduit, parce qu'on a traduit en grec, Torah par nomos. Avec le caractère qu'a souvent nomos, comme nous la loi, c'est comme quelque chose d'extérieur qui nous est imposé. Mais le terme de Torah, c'est un enseignement. Et un enseignement, c'est une flèche. Une flèche que l'on décoche pour vous faire réagir, pour vous réveiller. C'est au fond la consultation d'un mode d'emploi, la Torah. Je veux dire, essayez un petit peu de répondre à ces questions qui vont vous faire vivre. Je reprends le texte du Décalogue parce qu'on le lit souvent très mal. On commence le Décalogue, tu n'auras pas d'autre Dieu que toi. Que moi. Hein? Un seul Dieu tu adoreras. Transmis dans une autre expression. Mais on oublie la tête du Décalogue, le début. Dieu prononça toutes ces paroles, le chapitre 20 de l'Exode. Vous connaissez le texte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je t'ai libéré. Je t'ai, toi, libéré. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de l'esclavage, de la maison de servitude. Et quand vous voyez le mot Égypte, vous pouvez toujours traduire maison de servitude, esclavage. Et dans les termes que nous avons vus, de Dieu comme époux vis-à-vis d'Israël, humanité, épouse, c'est un peu comme le dialogue à la veille du mariage d'un époux et de sa femme. Je t'ai libéré, mais c'est réciproque, et tu m'as libéré. Tu m'as fait devenir moi par l'amour, et je t'ai fait devenir toi par l'amour. C'est l'amour qui nous est commun. Par conséquent, tu n'iras pas chercher ailleurs, c'est normal. Tu ne vas pas aller chercher un autre ou une autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ou bien alors cette expérience que nous faisons ne vaut pas. Mais si elle vaut, elle vaut infiniment. Définitivement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et c'est pourquoi les alliances avec des autres peuples, ou bien le service des idoles, c'est la même chose. Tu n'iras pas chercher d'autres alliances. Tu ne te feras aucune image sculptée. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Pas d'image. C'est un texte que on m'a souvent demandé de présenter dans le petit consortium là, de Vincent, de Jacques Bien et encore le troisième dont j'ai oublié le nom, hein, qui enseigne l'iconographie, l'image. Dieu dit pas d'image, nous faisons des images. Pourquoi faisons-nous des images? Qu'est-ce que cela signifie? Pas d'image, image. Donc il faut des images qui disent pas d'image. Il faut montrer comment l'icône veut être à la fois image, mais pas trop proche de la réalité humaine, mais d'une humanité stylisée en quelque sorte, pour qu'on voit que c'est à la fois image, et en même temps cette image est intérieure. Nous avons besoin d'images et nous ne faisons pas autre chose que de faire des images, que de parler en images. Donc l'image, nous pouvons la prendre pour la réalité. Et donc nous devons en quelque sorte prendre distance par rapport aux images que nous nous faisons sans cesse. C'est ce qui est dit ici dedans. La réalité est au-delà des images, mais elle passe à travers. Pour découvrir la réalité, je dois traverser les images. Mais elles sont fragiles. Tu ne te feras aucune image sculptée qui ressemble à ce qui est dans les cieux, des oiseaux, ou sur la terre, des animaux, ou dans les eaux au-dessous de la terre. C'est évidemment les images de l'Égypte qui sont désignées par là. Là, vous voyez que les dieux et les déesses ont des têtes d'animaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis pervers, quand je commets un crime, mon fils, on va dire, c'est l'enfant de celui qui a tué. Mon petit-fils, son grand-père a tué autrefois. L'arrière-petit-fils, peut-être qu'on commence à s'en souvenir, puis ça s'estompe. 3 ou 4 générations. Ça ne dure pas plus que 3 ou 4 générations. Mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, mais ceux qui gardent mes commandements, eh bien, ils sont en vénération par tout le monde. Par tout le monde. Dieu, sa réalité, pas d'autre alliance, pas d'autre Dieu, pas d'image, mais attention au nom. Le nom, c'est la personne. Donc, ne pas prononcer le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux, dit le texte. Et pour ne pas le faire à faux, le juge dit, donc on ne va pas le prononcer du tout. Comme ça, on ne prononcera pas à faux. Le nom, c'est la personne. N'utilisez pas le nom de Dieu. Utilisez. Quand est-ce qu'on commence à utiliser ? Quand on le prend comme un instrument. Car le Seigneur ne laisse pas impunis ceux qui prononcent son nom à faux. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'un Dieu punit de l'extérieur, mais prononcer le nom de Dieu à faux, c'est se mettre précisément dans la fausseté, dans l'hypocrisie. Et puis, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, et le 7e est un sabbat pour le Seigneur. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il a chômé le 7e jour. Donc c'est une référence à la création. Dans le Deutéronome, au chapitre 5, il y a le même commandement, mais au lieu de faire référence à la création, on fait référence à la libération d'Égypte. Tu exprimeras la liberté en te libérant du travail, de ton profit aussi, le jour du Shabbat. Ça, c'est la première table. Et puis, il y a la seconde table qui va redire la même chose, mais dans le rapport avec autrui. Il y a encore le honore, pardon, j'ai oublié, honore ton père et ta mère, le sabbat étant le jour, la présence de Dieu dans le temps, et honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. C'est le chemin par lequel la vie de Dieu m'atteint, m'est donnée. Et pour l'homme, tu ne vas pas attenter à sa vie. Tu ne tueras pas. Et sa vie, ce n'est pas seulement sa vie physique, c'est son intimité avec sa femme. Tu ne commettras pas d'adultère, tu n'iras pas chez d'autres dieux. Tu ne voleras pas. Tu ne vas pas mettre la main sur lui, donc tu ne vas pas faire ce qui était pas faire d'image, tu ne vas pas mettre la main sur lui et sur ses affaires qui lui appartiennent. Parce que lui, c'est sa personne physique. C'est son intimité, ce sont ses biens. Tu ne portes, mais c'est aussi son nom, sa réputation. Donc tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Ça correspond. Ce que tu fais ou tu ne fais pas pour Dieu, tu le fais ou tu ne le fais pas pour ton prochain. Pourquoi ? Mais parce qu'il est image de Dieu comme toi, tiens. Et quand est-ce que tu commences à utiliser ton prochain ? Quand tu convoites, soit ses biens, soit son bonheur, soit tout ce qu'il possède. Donc voilà l'essentiel de la Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi de l'homme comme créature de Dieu, comme image de Dieu. Image et ressemblance. On corrige le mot image en disant ressemblant. C'est pas tout à fait une image. C'est une image qui bouge. C'est-à-dire une ressemblance progressive. Voilà la loi. Je mettrai la loi au fond de leur cœur, de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Plus sur une pierre à côté de moi. Plus comme un commandement extérieur à moi, mais comme quelque chose que je vis en liberté de l'intérieur. Parce que, en quelque sorte, Dieu m'habite. L'alliance nouvelle, c'est vraiment cette prise de conscience de l'inhabitation divine. Alors moi, je leur fis sentir ma maîtrise, oui. Mais voici. l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi, mon enseignement, ma manière de voir, ma perception des choses. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Et nous trouvons ici la notion de cœur, c'est-à-dire d'intimité profonde, telle que nous l'avons déjà perçue un certain nombre de fois en Jérémie. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est, dirions-nous, toujours à recommencer, puisque le terme revient, toujours à approfondir, oui, pas à recommencer. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Et alors, on va encore caractériser de façon plus précise cette alliance nouvelle. Ils n'auront plus à s'instruire. Le terme s'instruire est important, puisque la loi est un enseignement. Donc la loi, on se la transmet par un enseignement. On vous dit ce qu'il faut faire, comme les parents à leurs enfants. Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement, en se disant l'un à l'autre, mais ayez la connaissance du Seigneur, en essayant de vous ajuster à sa Torah. Mais ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'aux plus grands. Donc ce que je désire vivre avec eux, et là il y a déjà la réalité personnelle présente, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc c'est une expérience que tout un chacun peut faire. Ils feront l'expérience d'une communion profonde avec Dieu. C'est ce que je traduis. Ils nous feront entrer dans son intimité. Et ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'au plus grand. Oracle du Seigneur, comment fait-on la connaissance de Dieu? Parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. On peut découvrir Dieu dans une sorte de contemplation. On découvre encore plus profondément Dieu dans le pardon qu'il nous accorde. On voit jusqu'où il aime, pour nous aimer même dans le geste par lequel nous nous tournons contre lui, par lequel nous le renions. Découvrir cela, c'est découvrir la face profonde de Dieu. Et ce lieu est le seul. Bon, Isaïe dit des choses un peu semblablement, mais différemment. Ézéchiel, au chapitre 36, dit des choses aussi, de façon très proche de celle-ci, mais aussi différemment.
Est-ce que ces deux prophètes ont contact entre eux?
Oui.
Jérémie et Ézéchiel.
Oui. Jérémie et le deuxième Isaïe ont certainement des contacts. Il y a des thèmes qui se retrouvent et des expressions presque telles quelles. C'est la même époque. C'est pendant l'exil. Lorsque on a, je dirais, construit ces livres tels que nous les avons aujourd'hui, il y a évidemment des passages, des passerelles entre les uns et les autres. Ézéchiel est de la même époque, mais un peu postérieur seulement. Il a connu Jérémie, semble-t-il, ou en tout cas ses écrits. Je ne sais pas s'ils se sont connus personnellement. Jérémie a connu aussi ce qu'on appelle le premier Isaïe, les oracles, ça c'est sûr. Mais même plus loin, il va dans le second Isaïe. Ézéchiel a connu Jérémie, au moins les oracles de Jérémie, mais il est postérieur et il prophétise en Irak, c'est-à-dire près de Babylone. Donc en déportation. Et donc, ils sont dans la même mouvance, mais ils ont une manière différente de travailler, de s'exprimer. Si je veux les caractériser, surtout Jérémie et Ézéchiel qui sont les plus proches, Jérémie est plus intérieur. Jérémie ressent davantage ce combat. Le combat intérieur, et c'est pas pour rien qu'il parle du cœur, pas mal. Ézéchiel a peut-être un peu plus de sensibilité pour la présence du Seigneur dans son temple. La présence dans son temple, ou qui quitte le temple et qui va rejoindre le peuple en exil. Et il va traduire cela autrement que dans cette dimension de cœur et de pardon, qui est spécifique à Jérémie, il va traduire ça dans les termes d'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Fils d'homme, prophétise. Ça c'est Ézéchiel. Fils d'homme. Et c'est l'esprit. Et prophétise sur ses ossements. Et les ossements desséchés, ce sont les captifs qui sont emmenés en exil. Ces ossements revivront-ils? Fils d'homme, je prophétisais des quatre coins, et les quatre esprits qui viennent des quatre coins de l'horizon et qui ressuscitent le peuple. Mon esprit. Donc ça c'est la vision d'Ézéchiel. Elle est plus grandiose, plus extérieure. Et il met en évidence, dans toute sa dernière partie, Ézéchiel, la réalité du temple reconstruit. C'est un temple tout à fait symbolique. Et le peuple d'Israël qui est reconstruit est aussi tout à fait symbolique. Chapitre 40 à 48 d'Ézéchiel. En plus de cela, le langage d'Ézéchiel, c'est un langage très cru. Parfois très plat. Tandis que le langage de Jérémie est beaucoup plus sensible. Il joue sur les mots et il a un vocabulaire très riche.